affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Notre émission de ce jour s'apprête à être extrêmement dépaysante. Nous allons en effet, dans quelques instants, franchir plusieurs fuseaux horaires pour nous retrouver aux confins du continent eurasiatique, en Extrême-Orient russe. Mieux, nous allons aussi voyager dans le temps, car nous allons nous y rendre au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, alors qu'un certain Joseph Staline règne encore sur ce pays continent. Ce voyage, nous allons le faire grâce au mystérieux pouvoir de la littérature et à la puissance d'évocation d'Andrei Makine, qui publie ces jours-ci au Seuil l'archipel d'une autre vie. Andrei Makine, bonjour.
Bonjour.
Je n'ose pas vous souhaiter la bienvenue, Andrei Makine, car après avoir obtenu le prix Goncourt en 1995 pour Le Testament français, vous avez publié une quinzaine de romans-essais qui vous ont valu d'être élu cette année à l'Académie française, si bien que vous êtes ici chez vous. C'est donc plutôt vous qui nous accueillez. Merci beaucoup. Merci donc de nous recevoir et d'avoir accepté de venir nous parler de votre dernier roman, curieux roman. D'ailleurs, je commence par un aveu. J'hésite sur la façon dont je dois le qualifier. Il est d'une telle richesse, on y trouve un peu comme des poupées russes plusieurs romans, tant et si bien qu'il pourrait s'agir d'un roman historique, d'un roman à suspense, d'un roman d'aventure, d'un roman d'amour aussi, d'un roman survivaliste, naturaliste, ou encore d'un roman métaphysique. Mais finalement, peut-être que le mieux, ou tout cela à la fois, mais le mieux, c'est peut-être de vous poser la question, quel est cet objet littéraire que vous nous livrez en cette rentrée ?
Incorrigible, esprit français, il faut tout définir, c'est très cartésien, oui. Au-delà de la définition, rien n'existe. Mais moi, je simplifierai la chose en parlant d'une double lecture possible. On peut bien sûr voir dans cet archipel d'une autre vie une enquête policière. Pourquoi ne pas le lire ainsi ? On pourrait finalement lire Crime et châtiment de Dostoïevski comme un roman policier. C'est une intrigue assez tendue chez Dostoïevski, avec un juge d'instruction formidable. L'archipel d'une autre vie pourrait être lu ainsi. Cinq militaires sont lancés à la poursuite d'un évadé du goulag. Ils s'évadaient de temps en temps. Vous voyez, on pense que le régime stalinien était parfaitement hermétique, mais l'histoire le prouve, l'histoire est maintenant divulguée beaucoup plus librement en Russie, que ces évasions se faisaient de temps en temps. C'était extrêmement difficile. Je garde un souvenir bien plus tardif, un souvenir personnel, où en pleine forêt, nous avons trouvé un arbre sur lequel était suspendu un mort. Ce mort complètement décharné, et la neige autour de cet arbre était piétiné par des loups. Donc c'était un évadé qui a fui d'abord le goulag, puis qui a fui cette meute de loups qui a grimpé sur un arbre et qui est mort frigorifié sur cet arbre. Donc vous voyez, ça n'était pas si rare dans cette forêt sibérienne. Celui dont je parle, c'est un peu différent parce qu'il est poursuivi par ces cinq personnes, cinq militaires qui le voient. Donc, ils sont visibles les uns aux autres. Et cette intrigue policière, cette enquête policière, se double d'une quête existentielle, parce que chacun commence à réagir à ces situations qui, dès le départ, leur paraît très claires. Le régime leur a ordonné de capturer et peut-être même d'exécuter cet évadé. La mission est très simple. Mais les choses se compliquent quand cet évadé, au lieu de représenter pour eux juste une silhouette fuyante à abattre dans la visée de leurs armes, commence à devenir quelqu'un de réel, de presque fraternelle. Voyez-vous, cette frontière est très fragile. On ne peut pas aimer son ennemi, nous dit-on. Mais il y a, en tout cas, cette empathie qui naît de la difficulté de ces conditions extrêmes. Et une sorte de dialogue muet, ils ne peuvent bien sûr pas parler avec l'évadé, s'installe. Il fuit, mais ses gestes, sa démarche, les lieux qu'il choisit pour bivouaquer, ses caches, commencent à tracer une sorte de langue averbale, mais qui dit quand même exactement ce qu'il faut dire dans ces conditions-là. Nous sommes très proches, malgré les frontières idéologiques qui nous divisent.
Et chacun emmène dans cette traque sa propre histoire, sa propre personnalité. Est-ce que vous pouvez nous présenter chacun des personnages?
Oui, encore en simplifiant terriblement, on pourrait dire que tous les tempéraments sont présents. Il y a des gens un peu un de ces soldats est plutôt flegmatique, c'est un débonnaire, l'autre est sanguin, l'autre est mélancolique, l'autre est colérique. Mais vous voyez, ça ne correspond bien sûr pas à ce schéma des tempéraments psychiques bien connus. Les caractères sont beaucoup plus profonds parce qu'ils sont fluctuants, ils sont mouvants. Il y a une sorte de dialectique qui s'engage entre eux et surtout, ils s'influencent les uns les autres. Je vous ai parlé de ce langage qui s'installe entre les militaires, les poursuivants, les persécuteurs et le pauvre évadé. Mais il y a aussi un langage très biaisé qui s'installe entre eux. Déjà, leur hiérarchie qui commande, vous voyez, certains niveaux de compréhension, et puis surtout, la peur. La peur, ça se passe sous le régime stalinien où l'homme, vis-à-vis de son prochain, était un mystère dangereux, une menace permanente. Est-ce qu'il va parler? Qu'est-ce qu'il va dire de moi? Quelles sont les limites de son pouvoir sur moi? Est-ce qu'il peut me sauver fraternellement ou est-ce qu'il peut m'accuser? Donc les choses n'étaient pas du tout sûres. Ce n'était pas clair, ce n'était pas un régime de clarté, c'était un régime de clair-obscur en permanence.
Oui, c'est l'un des premiers aspects saisissants du livre, c'est qu'à travers la relation de ces différents personnages, on documentait en quelque sorte, une forme évidemment romancée et trépidante, la façon dont un tel régime assis sur la peur, la terreur et la méfiance surtout, provoque des ravages moraux absolument redoutables.
Ce régime mettait les hommes dans des situations extrêmes vis-à-vis de son prochain, comme je dis, vis-à-vis de la machine d'État, vis-à-vis de la dictature. Mais en même temps, ces conditions extrêmes avaient une influence étrange, existentiellement parlant, c'est que l'homme touchait les limites au-delà desquelles il n'avait plus peur, au-delà desquelles avoir peur était complètement inutile. Quand toutes les limites de la peur, de l'angoisse étaient dépassées. Ça me rappelle cette chronique du temps de la terreur pendant la Révolution française. Un des nobles passe dans la conciergerie, traverse une salle où sont rassemblés ceux qui vont remplir les charrettes et décapiter. Et puis il voit que les gens rient, les gens s'amusent. Donc, ils ont dépassé leur peur. Ça paraît invraisemblable. Et l'un d'eux, même, il a trouvé du fard quelque part, et il s'est fardé le visage, pour le rendre du maquillage. Il s'est grimé pour être un peu moins pâle, pour même, en montant sur l'échafaud, pour paraître encore vivant. Et donc, la comparaison n'est pas raison, mais je pense qu'il y avait de ça aussi dans l'époque stalinienne, c'est qu'il y avait des moments où la peur était dépassée. Et ce que les personnages vont, chacun à sa façon, vivre dans cette poursuite, dans cette traque, cette chasse à l'homme.
Oui, pendant qu'ils poursuivent ce malheureux fugitif, ils traquent aussi en eux la voix qui leur souffle à l'oreille, qu'il faut rester soumis à la peur.
Oui, Pavel Gartsev, qui est le personnage principal, appelle cette voix ce pantin de chiffon. Quand il était tout petit, il a perdu ses parents. Et au moment d'une explosion dans une centrale électrique, et il a trouvé une poupée chiffonnée qui était mêlée à la boue. Et il avait, dans son esprit d'enfant, il avait cette association rapide, intuitive, irréfléchie, mais qui l'a saisie à la gorge. Il dit, mais finalement, oui, il y a quelque chose de pareil en moi. Ce petit chiffon, ce petit pantin de chiffon, c'est ce moi, ce caillot, ce concentré de mes peurs, de mes angoisses, de mon égoïsme, et de mes réflexes vitaux. Et je dois absolument préserver ce petit moi, quitte à disparaître.
Alors pour bien être précis, on a dit qu'il y a plusieurs personnages qui sont lancés dans cette traque. Chacun a réagi avec sa personnalité. Toutefois, on a le sentiment, en lisant l'ouvrage, vous me direz si c'est le cas, qu'ils représentent en fait tous ensemble l'humanité. Ce ne sont pas des archétypes séparés. C'est globalement qu'ils représentent ce que nous sommes probablement un peu tous avec nos parts d'ombre et de lumière.
Oui.
C'est cela.
Oui, l'idée est intéressante. Je n'y ai pas pensé. Vous voyez, vous conceptualisez, et c'est tout à fait normal, c'est votre rôle. L'écrivain s'interdit de conceptualiser. Dès qu'il commence à conceptualiser ce qu'il écrit...
Ça devient un mauvais roman.
Ça devient un mauvais roman ou un
bon
essai. Un bon essai, peut-être. Un bon essai, mais en tout cas, un très mauvais roman. Vous voyez, quand on impose à ces personnages des schémas mentaux qu'on a élaborés avant. Gorky le faisait, d'ailleurs. On lui a beaucoup reproché ça. Mais enfin, là, en France, vous avez toute une littérature très philosophique. Camus, Sartre, tout l'existentialisme, c'est un peu ça quand même, vous voyez, c'est des schémas qu'on essaie d'habiller avec nos complexes psychologiques, nos angoisses, nos peurs, nos situations sociales, enfin ce que Lacan appelait l'habillage psychologisant. Et c'est juste l'habillage psychologisant. Donc il y a un schéma au départ, et puis on essaie de l'attifer un peu, de le couvrir avec de la chair. Mais cette chair est artificielle, elle ne colle pas au schéma. Donc, représentent-ils tous un homme synthétique, enfin, que ce soit Homo Sovieticus, cet homme soviétique, ou même plus largement, et vous avez tout à fait raison d'y insister, un homme universel avec des qualités qui sont véritablement nos qualités à nous tous. La violence, la traîtrise, l'angoisse, des confidences parfois absolument désarmées et désarmantes, qu'ils se permettent, après un verre d'alcool, et la rétractation. Donc, comme je vous ai dit, la psychologie est extrêmement fluctuante. Elle suit les méandres de ce qu'ils vivent. Et à mon avis, leur liberté de personnage est à ce prix. On ne peut pas les engoncer et les enfermer, vous l'avez très bien dit, dans les archétypes psychologiques.
Oui, ils sont tour à tour bons, mauvais, héroïque, pleutre, violent, en quête de rédemption.
Oui, tous. Est-ce qu'ils sont tous comme ça? Je distinguerais peut-être l'un parmi eux, c'est Vassine. Vassine qui est plus âgé. Qui est plus âgé et qui a parfois, à mon sens, il a cette stabilité dans son caractère d'un homme qui est revenu de tout. Il a perdu sa femme, il a perdu son enfant, et il a fait du goulag, il a été relâché. Et donc, c'est un homme désabusé, profondément désabusé. Et donc, il est plus équilibré. Il connaît mieux la vie, pour simplifier.
Son cheminement est déjà accompli.
Il est au-delà de nos peurs humaines, de nos angoisses humaines.
Alors, on a dit, au-delà de l'histoire, le livre est situé géographiquement, il est situé historiquement. On le comprend... que vous ne voulez pas seulement parler de cette période historique, c'est pas un témoignage circonstanciel.
Si, mais tout devient, dans la littérature russe, tout devient historique parce que l'histoire et la politique jouaient un rôle écrasant dans la vie des gens, voyez-vous. Ici, en France, dans les démocraties, vous pouvez être peut-être un peu plus Détaché vis-à-vis de la vie politique, de ces mensonges, de cette turpitude politicienne, vous pouvez jouer
se mettre en marge.
Voilà, au-dessus de la mêlée. Vous voyez, on a beaucoup reproché ça, cette posture à Romain Rolland, mais il avait un peu raison. On peut aussi, de temps en temps, quand on ne peut pas intervenir efficacement, se dire, écoutez, votre monde est complètement délirant, je m'écarte de ce monde. En Russie, c'était beaucoup plus difficile. Il fallait faire quand même un choix très clair. Et en 1952, le choix était imposé non pas seulement par la dictature de Staline, mais par cette réalité, hélas, inévitable, c'est la guerre de Corée. Les deux superpuissances, les États-Unis et l'Union soviétique, sont face à face, toujours par l'entremise d'une autre nation. Aujourd'hui, c'est la Syrie. Hier, c'était le Vietnam ou la Corée. Et les documents déclassifiés le prouvent très bien. C'est que les Américains étaient prêts à réitérer l'expérience japonaise, c'est-à-dire à bombarder la Chine et puis la Russie. Ils avaient cette prépondérance absolument indiscutable en armes atomiques. Ce qui a sauvé les Russes, c'est l'invention, les premiers essais de la bombe thermonucléaire, les essais tellement réussis que le monde a tremblé. D'abord la Terre a tremblé, et puis le monde a tremblé, et ce qui nous a valu quand même une longue période paisible. C'est parfaitement fantasmagorique ce que je dis, mais c'est un peu ça, cet équilibre des horreurs militaires d'une part comme d'une autre, d'un côté comme d'un autre. Et 60 ans, 70 ans, nous avons passé plus ou moins, sans guerre mondiale. Maintenant, cet équilibre est rompu. Si vous regardez les cartes, on voit très bien les bases américaines qui s'installent autour de la Russie, dans les anciens pays satellites. Qui ont perdu, à mon avis, le peu de raison qui leur restait, et qui installent ces bases américaines avec des armes atomiques. Donc Moscou se retrouve à 5 minutes, à 3 minutes d'un bombardement atomique que peu de choses peuvent prévenir. Si une fusée est lancée du Pacifique, il y a quand même des capteurs, on peut encore capter et répondre à cette attaque. Là, le temps manquera. Donc, il y aura sans doute une réponse un peu tardive, mais qui amènera à la catastrophe finale sur cette terre. Et ce n'est pas tellement fantaisiste que je dis. C'est hélas, vu l'acharnement de l'Occident dans l'Orient, enfin, l'Irak, la Libye, la Syrie maintenant, l'Afghanistan, on voit que ceux qui nous dirigent, ceux qui nous gouvernent, sont quand même... ils ont dépassé les limites de l'entendement. Vous voyez, quand on
entend... Ils sont dans l'hubris, c'est très clair.
Quand on entend Mme Clinton qui dit on va bombarder à l'arme atomique l'Iran, je ne sais pas si elle se rend compte de ce qu'elle dit. C'est 80 millions d'habitants, c'est des femmes, des vieillards, des enfants qui vont périr dans cette guerre atomique. Donc, la raison n'est plus là.
C'est pourquoi j'en viens à ce que je voulais exprimer, c'est-à-dire qu'au-delà de la dénonciation de ce régime spécifique, qui était le régime stalinien, vous nous livrez quand même une vision assez sombre et globale de la nature humaine. En général, il y a cette phrase saisissante qui est dès les premières pages du livre où... un jeune enfant, après avoir observé une rixe assez banale pour entre deux hommes souhaitant épater une jeune femme, en déduit ceci. En raison de la violence de la scène, de sa brutalité, de sa bêtise. Tout gravitait donc autour d'une belle cuisse féminine, universelle comédie de rivalité, de séduction, de haine muette et de mensonges volubiles. Lorsque vous écrivez cela, ainsi d'ailleurs qu'au fil du déroulement, lorsque... ce terme de comédie et de justification que se trouve sans cesse l'être humain pour justifier ses violences primales, on en vient un petit peu à désespérer de la nature humaine au-delà des régimes politiques, je veux dire.
Oui, l'homme reste fidèle à ses deux identités, la première étant son identité corporelle, physique, ce désir. Spinoza disait l'essence de l'homme, c'est le désir. Oui, là, dans la citation que vous avez lue, la chose est claire, voyez-vous, ce désir primaire, il s'exprime avec toute sa violence. Il s'exprime parfois d'une façon anecdotique dans la vie politique française d'aujourd'hui, quand on voit un président de la République partir à la nuit tombée sur un scooter, ce qui paraît quand même invraisemblable vu l'importance du poste qu'il occupe. On imagine difficilement De Gaulle faire la même chose. Mais passons, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire déjà. Mais en tout cas, vous voyez, cette identité, cette machine désirante qu'est l'homme, le pousse dans des directions parfois absolument imprévisibles et fatales pour l'humanité. Et cette autre identité, cette identité sociale, c'est-à-dire mon statut social, le statut que j'occupe et que j'arrache aux autres, cette rivalité qui peut être une rivalité tribale ou professionnelle ou familiale, ou sociale, ou politique, ça c'est une autre facette. Donc si l'homme ne dépasse pas, ne va pas au-delà de ces deux identités, l'humanité, à mon sens, elle est perdue, et, enfin, telle qu'elle est aujourd'hui. L'agrandissement de la population, donc l'agrandissement absolument invraisemblable de ces haines, de ces désirs de plus en plus comprimés, vu tout simplement la petitesse des ressources dont nous disposons, et puis l'explosion.
Ce qui est extrêmement plaisant en vous écoutant et en vous lisant, c'est d'avoir enfin une forme de contrepoint. Vous avez décrit tout à l'heure la situation géopolitique de la Russie. Je pense que vous en avez conscience, puisque vous vivez en France, mais du point de vue français et de la grande partie des médias français, la Russie est présentée comme l'agresseur, systématiquement. C'est-à-dire que on ne va pas rentrer dans un débat pour savoir qui a raison, qui a tort, mais ce qui est certain, en revanche, c'est qu'il n'y a plus d'effort pour se mettre à la place de l'autre. Il n'y a plus de contrepoint. Les gens s'enferment dans le confort intellectuel qui consiste à se dire « les méchants sont ici, les gentils sont là ».
C'est dangereux. C'est
et tout devient simple. J'en reviens au livre. Le moment où ça bascule, j'ai l'impression, c'est lorsque les poursuivants intellectuellement, se mettent à la place du fugitif.
Oui, c'est tout à fait juste.
À ce moment-là, ce n'est plus possible de le mettre à mort.
Il s'identifie. Voilà. Donc, il s'identifie, et même plus que ça, ils le reconnaissent plus fragile qu'eux-mêmes. Voyez-vous, quand l'autre est considéré tout à coup comme quelqu'un de fraternel, et en même temps, c'est notre frère humain est dans une situation plus difficile que la nôtre, voyez-vous, peut-être c'est là où notre humanité se rebelle. Vous avez parlé de ces médias français. Soyons clairs, ils sont dans une situation intenable. Ils sont possédés par 9 milliardaires, vendeurs d'armes. Donc on ne peut pas même jeter la pierre aux journalistes. Les pauvres, ils défendent leur beefsteak. Ils ont tous des crédits d'appartements et de voitures, sans doute. Et donc ils mentent tout le temps. Ils mentent de façon éhontée, mais coupable. Dernièrement, j'ai dit à ces journalistes, chaque mot de mensonge aujourd'hui, c'est un enfant tué en Syrie. Chacun de vos mots de mensonge, vous prononcez un mot de mensonge, sachez qu'un enfant tombe sous les bombes. Mais il y a des gens, il y a des voix qui se lèvent. Voyez-vous, quelqu'un qui ne me serait pas peut-être proche politiquement, mais Jacques Attali, il développe une analyse qui est très proche de l'analyse que je jugerais raisonnable. Oui, les Américains ont détruit l'Orient, le Moyen-Orient, et il sera beaucoup plus difficile maintenant de parler avec ces pays détruits, sans gouvernement, etc. Donc il y a des voix quand même qui se prononcent dans ce sens.
Les voix qui se prononcent dans ce sens, ce sont celles de ceux qui ont tué leur pantin intérieur ?
Qui se sont détachés peut-être de l'immédiateté trompeuse des choses, vous voyez, qui vont au-delà de ce que l'immédiateté politique ou les intérêts immédiats nous promettent.
L'immédiateté, c'est un des maux de nos sociétés, selon vous ?
Les gens n'ont plus le loisir de réfléchir. Ils doivent écrire leur papier vite, tout en sachant que c'est complètement mensonger. Ils doivent réagir obéissant à des instincts superficiels, sans aucun recul, et surtout sans cette historicité qui était quand même le fort de la réflexion française, quand vous parlez de Gaulle, attendez, mais il brassait des siècles d'histoire avant de porter un jugement. Donc quand il prononçait un mot, il avait toute une enfilade de mots, de sens qui étaient derrière chaque mot. François Mitterrand, c'était le même cas. Pourquoi c'était des grands lettrés qui possédaient un style de pensée, un style de réflexion. Ce n'est plus le cas d'aujourd'hui.
Parce qu'on vit tout le temps dans le présent, au-delà des médias.
Je me demande si c'est même pas un présent, c'est quelque chose de fantasmatique, c'est une création mentale, c'est des schémas mentaux qui ne participent même pas au présent réel, parce que le présent réel, c'est 4 millions de chômeurs, il faudrait y penser, 75 000 femmes violées en France chaque année, 75 000 femmes. Qui pense à ça? Personne. 10% osent porter plainte. Les autres essuient leurs larmes dans l'obscurité, et ça se passe comme ça, dans une grande démocratie européenne. Il y a des gens qui meurent aux États-Unis parce qu'ils sont noirs, oui, ils ont peut-être une tête un peu menaçante, on les abat froidement. Ça se passe dans la plus grande démocratie mondiale.
Vous nous invitez à une forte remise en question.
Je pense que le but de la littérature, c'est bien cela, voyez-vous. Finalement, en partant de ce livre, dont le sujet peut paraître très éloigné des temps modernes, on revient quand même vers un jugement sur notre aujourd'hui.
Face à cette situation, les personnages que vous décrivez ne sont que des grains de sable dans un immense rouage qui est là un régime totalitaire, mais on peut dire la même chose des citoyens français ou américains ou de n'importe quel autre pays aujourd'hui face à cette matrice sociale en quelque sorte. Mmh. Comment faire pour s'en tirer? Est-ce que la solution est celle de l'exil intérieur, de l'héroïsme? Est-ce qu'il y a une possibilité de rédemption en d'autres termes? Désolé d'utiliser des grands mots, mais j'en vois pas d'autres.
Non, mais ce que vous dites, c'est le choix des dissidents soviétiques. Ça m'a rappelé d'ailleurs le discours que j'ai mené il y a 30 ans dans les cuisines enfumées. C'est là où la liberté russe, enfin la liberté soviétique, se concentrait. On parlait à longueur de journée de la presse libre. Ah, la presse libre. Vous voyez, comme on était naïfs. Et donc, on pensait que la presse pourrait exister un jour sans cette dictature du grand capital. Et quand vous dites, oui, ce retranchement, ce détachement, les Russes employaient le terme d'émigration intérieure, d'émigration. Ils ne pouvaient pas émigrer, tout le monde n'était pas autorisé à émigrer, mais oui, on pouvait émigrer dans notre fort intérieur, dans notre moi profond, et y rester... Et rester à l'abri des mensonges, ne pas participer aux mensonges. C'est déjà pas mal, ne pas participer aux mensonges. Vous voyez, il y a des... comment on appelle ça en France? Le mot me sort de l'esprit. Ceux qui ne veulent pas faire le service militaire, c'est les
objecteurs de conscience.
Les objecteurs de conscience. Oui, je cherchais objecteurs de conscience. Ces objecteurs de conscience.
C'est un très joli mot.
Objecteurs de conscience, c'est magnifique. Ça. Enfin, même, je n'ai rien contre l'effort militaire que les jeunes doivent fournir à leur patrie.
Le mot est plus joli que la chose précise.
Oui, mais objecteurs de conscience, vous voyez, on peut rester objecteurs de conscience, vous voyez, mais si on ne se sent pas la force, vous voyez, de se lever et de dire la vérité, au moins ne pas participer aux mensonges et aux turpitudes. Et parfois, c'est une grande force. Il y a dans le poème russe Boris Godunov de Pushkin, Boris Godunov, il y a cette phrase terrible qui est prononcée à la fin du poème, « Le peuple se taisait ». Donc le peuple n'approuvait pas ce qui se passait. Il ne pouvait pas réagir. Sinon, vous savez, c'est les têtes qui tombent, c'est le sang qui coule. Mais le peuple se taisait. Voyez-vous, tout le monde ne peut pas se prononcer. Tout le monde n'a pas le droit de se prononcer ou la possibilité. Les réseaux sociaux nous l'autorisent un peu mieux maintenant. Mais ne serait-ce que ce refus de participer aux mensonges, c'est déjà, à mon avis, c'est déjà un engagement politique, un engagement philosophique, un engagement moral très fort.
C'est celui que vous nous conseillez ?
Non, non, mais je vous conseille de lire les livres, d'écrire les livres. Et puis, que, voyez-vous, à votre station, au Canal Académie, on peut parler encore de ces choses-là sans regarder les yeux exorbités du journaliste qui se dit à quel moment je vais être viré, viré par le rédacteur en chef qui va arriver
furieux. À quel moment vous allez déraper.
Voilà, je déraperai, oui. À quel moment je deviendrai populiste, islamophobe ou je ne sais pas quoi.
Et si on ne dérape pas, on explore. L'autre personnage, pour prendre des considérations finalement plus apaisantes après ces propos graves, mais à méditer, après l'émission aussi, on a parlé des différents personnages humains, mais finalement, la taïga, c'est un personnage à part entière dans votre livre aussi, non ?
La taïga, oui, c'est le cosmos, c'est une partie intégrante du cosmos, c'est plus qu'un cadre naturel. Les forêts sont souvent imaginées en France comme de ces belles futaies très claires. Ce n'est pas le cas dans la taïga. Dans la taïga, vous faites un pas et vous êtes invisible. Vous plongez, vous êtes submergé par ce déferlement végétal.
On est dans l'humus.
Non, on n'est pas dans l'humus, on est aussi dans le ciel, parce que les arbres sont... C'est des forêts primaires, souvent, qui n'ont jamais été coupées. Donc, voyez-vous, on est vraiment dans un cadre naturel tel qu'il était il y a 10 000 ans ou 20 000 ans. Et donc, on est accepté par la nature. On n'est pas maître de la nature, on n'est pas là pour lui dicter nos volontés, pour l'exploiter. On est là pour être en harmonie avec cette nature et ne lui demander que de nous accepter.
Il y a une forme de... J'ai ressenti aussi une forme d'apologie du lâcher-prise. Ouais. C'est un mot qui est à la mode aujourd'hui. Hein. Je ne parle pas de développement personnel, ce genre de bêtises.
Voilà.
Mais les personnages retrouvent, vous avez prononcé le mot de sérénité, une forme de sérénité lorsqu'ils sont dans l'acceptation. Est-ce qu'une part... des démons du monde contemporain, c'est pas cette volonté de sans cesse vouloir toujours tout maîtriser. Est-ce que dans les sagesses antiques, il n'y avait pas aussi cette forme de défiance par rapport à cette pulsion de vouloir toujours tout contrôler?
Les Grecs appelaient ça comment? Ataraxia, non? Ataraxia, je pense qu'il y avait un terme. Ce détachement, oui, c'est presque un sentiment de nirvana, oui, de détachement. Bouddhiste. Oui, le monde ne le permet pas aujourd'hui, au quotidien. Au quotidien, les hommes, dès qu'ils donnent un doigt, dès qu'ils mettent un doigt dans ce rouage du monde, ils sont entraînés. Ils sont entraînés par cette rivalité dont j'ai parlé. Il faut préserver son statut, sa posture sociale. L'homme s'y attache, sinon il est tout de suite mis au banc de la société ou tout simplement écarté sur le bas-côté du chemin. Le choix est très cruel en ce sens, très très cruel. Il ne faut pas l'oublier, on n'est pas dans le meilleur des mondes possibles, tant s'en faut. Mais le courage et surtout la situation extrême, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est que la situation extrême qui peut tuer ces hommes, ces cinq personnages, en même temps c'est un avantage énorme. Ils sont poussés tellement à la dernière limite du supportable, que tout leur paraît finalement assez léger à la fin. On peut ne plus se préoccuper de sa survie. Et donc, on commence véritablement à vivre et non pas à survivre.
C'est peut-être... le livre commence par cela. Maintenant, je vais lire les premières lignes. En chaussant mes lunettes. À cet instant de ma jeunesse, le verbe « vivre » a changé de sens. Il exprimait désormais le destin de ceux qui avaient réussi à atteindre la mer des Chantars. Pour toutes les autres manières d'apparaître ici-bas, exister allait me suffire. C'est une invitation à vivre, votre livre.
Gardzef, le personnage principal, quand il se retrouve, donc c'est un citadin, c'est un Leningradois, enfin Saint-Pétersbourgeois, on dirait aujourd'hui, et quand il se retrouve dans ce cadre cosmique, enfin dans ce cosmos plutôt, il n'y a pas de cadre justement, c'est quelque chose d'illimité, la première réaction, c'est la peur, bien sûr, l'angoisse, mais surtout la question, mais comment pourrais-je m'adapter à ce milieu qui m'est complètement inconnu? Donc il réfléchit surtout à l'apprentissage de certains gestes, de certaines astuces pour survivre. Et puis il comprend que L'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est que ce qu'il faut tout simplement remettre en question toute sa vie, surtout la vie qu'il a menée avant. Et cette vie lui paraît tout à coup un songe mortel, une forme de mort finalement. Ce que nous avons évoqué, c'est-à-dire une vie conçue par les autres pour nous, par les schémas sociaux, par les rouages de la société, par la rivalité des gens, par la morale qui est très simple, c'est-à-dire marche ou crève, grosso modo, c'est ça. Et quand il se détache de là, il se dit, voilà, je suis dans une situation qui m'est complètement inconnue et je dois survivre, il comprend que une refonte complète de son être sera le premier pas dans cette nouvelle vie. Il faut devenir autre, il faut vivre une vie radicalement différente.
C'est donc ce que vit le personnage principal de votre ouvrage. Nous le prendrons pour notre part comme une invitation à cheminer en votre compagnie dans la taïga sibérienne, mais aussi à cheminer en notre fort intérieur pour profiter de ce contrepoint et de se demander à notre tour si nous existons ou si nous vivons, tout en vous lisant. Et après, et j'espère au fil de prochaines émissions, vous nous direz si nous avons progressé. Merci beaucoup André Imakine. Je rappelle les références de votre ouvrage, L'archipel d'une autre vie, quel beau titre d'ailleurs, donc par André Imakine de l'Académie française désormais, publié au Seuil. Merci encore de nous avoir fait profiter de ce désaxement fécond.
Merci beaucoup. Thank you.